dans la suite de ce que nous lisons en ce moment, c'est-à-dire l'épître de Paul aux Philippiens. Et nous abordons le chapitre 2. Donc ceux qui ont des Bibles ou qui veulent suivre sur leur smartphone, je vous invite à trouver Philippiens chapitre 2. On a vu déjà que donc Paul est en train de connaît des liens très très forts avec cette église de Philippe. Beaucoup d'affection semble apparaître dans le texte entre eux, entre cette communauté et Paul. Et Paul est en prison en ce moment où il écrit. Et il encourage l'église de Philippe à ne pas voir sa situation comme une défaite, comme un échec ou comme un signe de mauvais choix, mais comme une opportunité qui lui est donnée d'annoncer l'évangile en des endroits étonnants et reculés. Et dans cet élan-là, il cherche à amener les Philippiens à changer peut-être leur regard sur ce que c'est que servir le Seigneur, et les inviter à s'ouvrir peut-être au fait que dans la souffrance aussi, dans les épreuves, on est appelé parfois à servir le Seigneur. Et à plusieurs reprises, il semble dire que, bon, il espère pouvoir revoir les Philippiens, mais que c'est pas sûr. Mais que c'est pas grave s'il meurt pour le Seigneur. Et puis, il espère les revoir et il dit, mais bon, en attendant, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Et il veut, dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, les exhorter encore plus. Et je crois qu'il les prépare à sa mort, même s'il n'en est pas sûr et même s'il ne l'espère pas, et qu'il veut laisser pour les Philippiens le modèle de Christ qu'ils auront trouvé en lui. Nous lisons, chapitre 2, verset 1. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, quelque compassion, quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Faites ayez en vous les dispositions, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Hein ? Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Non, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, eh bien, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais présent, mais encore plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Alors faites tout, sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain. Et même si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, eh bien je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Trois choses à voir dans ce beau et magnifique texte. Comme un écho avec ce qui avait été dit dimanche passé, la souffrance. En tout cas, un chemin. Une deuxième chose, un mouvement dans l'Église, l'abaissement et l'élévation. Et une troisième chose, comment on se comporte à la maison quand papa n'est pas là. Vous vous souvenez qu'on avait dit que Paul faisait le lien entre lui et sa situation, il est dans une prison pour le nom du Seigneur, mais il parle à ses Philippiens comme si « Vous aussi, vous participez à la même œuvre que moi. Vous aussi, vous avez été appelés à devenir, pour le Christ, des serviteurs totalement offerts, jusqu'à même peut-être souffrir pour le Seigneur. » Comme il a été dit au verset 29, « Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Alors, souffrir pour Christ, peut-être notre première image vient des frères et sœurs persécutés ou dans des pays de guerre, ou dans des pays où croire en Christ est interdit. Et certainement que ces situations sont bien plus terribles que ce que nous pourrons connaître. Mais notre appel à nous, à la souffrance pour le Christ, peut-être commence ailleurs, peut-être qu'il commence plus modestement, et peut-être qu'il commence tout simplement en faisant le choix d'aimer nos frères et sœurs dans l'Église. Et c'est ce à quoi Paul nous appelle. Y a-t-il quelque consolation en Christ ? C'est de l'ironie, hein ? Mais bien sûr qu'il y en a. Il y a des wagons. Y a-t-il quelque encouragement dans l'amour ? L'amour que Dieu a pour nous ? Oui, ouais, ça m'encourage un peu ? Non. Y a-t-il quelque communion dans l'esprit ? Vous est-il arrivé dans des temps de prière, des temps de dialogue, de rencontre avec un frère, avec une sœur, de sentir cette communion, ce lien d'âme ? Y a-t-il quelque compassion, quelque miséricorde ? C'est ce qu'on appelle littérairement un euphémisme. Oui, il y en a beaucoup. Et alors, mettez le comble à ma joie, dit Paul. Puisez dans ces réserves colossales de la communion avec Jésus, dans son amour, où il y a des encouragements, dans l'unité qu'il vit avec nous, dans la compassion, dans la miséricorde. Puisez là-dedans, dans ce que Christ déverse en vous pour avoir une même pensée. Avoir une même pensée. Un même amour, une même âme, une seule pensée, dit Paul. Une unité. Parce que j'aime, parce que je me sais aimer de Dieu d'abord, parce que je me sais aimer de Dieu, parce que je prends le temps de considérer tout ce qu'il fait pour moi, tout ce qu'il est pour moi, et que je choisis de le déverser et de le donner à mes frères et mes sœurs en Christ. Bon, la famille aussi, hein. Les parents, les enfants, vous savez que Paul dit, celui qui n'a pas le souci des siens est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Donc, ne sacrifions pas notre famille de sang pour l'Église. Hein ? Mauvaise idée. Et donc dans cette église, voilà, une seule pensée, un seul cœur, une seule âme, ne faites rien par rivalité, vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun considère les intérêts des autres au lieu des siens. Vous connaissez ça. Vous savez ce que c'est que ce moment où je dois choisir entre moi et la communauté. Hein ? Pas toujours un choix facile. Paul nous exhorte à choisir la communauté régulièrement. Que ça devienne quelque chose de normal pour nous. Ça amène à quoi ? Ça amène à un engagement. Ça amène à une loyauté communautaire, une fidélité entre nous parce que nous sommes chrétiens. Et ça amène aussi beaucoup à nous bénir les uns les autres et à sentir cet amour de Dieu pour moi, non seulement dans mon cœur par la foi, mais aussi par le corps du Christ lui-même. Mais comment est-ce qu'ils vont faire ces Philippiens ? Paul n'est plus là. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Hein ? Paul leur dit, mais travaillez à votre salut, comme si j'étais présent. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va s'organiser là ? Et il les rassure, voilà, moi je ne suis qu'une figure de Jésus-Christ, qui lui-même est l'image de Dieu. Quand je ne suis pas là, vous savez quoi ? Ben, y a Dieu qui est là. C'est pour ça qu'il dit cette phrase, je pense, c'est Dieu qui opère en vous, le vouloir et le faire. Vous voulez bien faire ? Vous voulez savoir comment bien faire ? Cherchez en vous. Dieu opère en vous le vouloir et le faire. Vous voulez être une source de bénédiction ? Vous voulez avoir cet amour, cette même âme, cette même pensée ? Regardez les autres comme plus importants que vous ? Ne rien faire par rivalité ? Cherchez en vous, Dieu a déposé déjà le vouloir et le faire. Et le pasteur n'est pas là, Paul n'est pas là, il est en prison. Vous n'êtes pas orphelin, vous n'êtes pas sans guide. Parce que Dieu dépose en vous le vouloir et le faire. Selon son dessein bienveillant. Et puis il y a un autre modèle. Et Paul on dresse un portrait tellement magnifique. Christ, lui qui est comme Dieu et qui n'a pas regardé comme une proie à arracher. C'est une vieille expression, ça. On dit purée, ça. Et il n'a pas. Imaginez un lion qui tient un mouton dans sa gueule. Qui veut aller chercher le mouton ? Personne ? Voilà. Donc, Christ qui tient sa divinité et sa royauté totale, le fait qu'il soit là-haut, à la droite de Dieu, comme un lion tient un mouton dans sa gueule. Qui va chercher ça ? Eh bien, Christ le dépose de lui-même. Personne n'a à lui arracher ça, il le dépose de lui-même. Il s'en dépouille lui-même. Il devient humain avec nous. Mais pas le plus grand des humains. Non, le dernier des humains. Le serviteur de tous, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est exactement et c'est uniquement pour cela qu'aujourd'hui Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Et que nous en faisons notre Seigneur et notre Sauveur et que nous bâtissons notre foi, notre espérance en lui. C'est parce qu'il est descendu et qu'il s'est laissé abaisser dans l'obéissance totale qu'aujourd'hui il est élevé. C'est parce qu'il a accepté d'être le serviteur de tous qu'il est le roi sur tous. Et ce mouvement, Paul nous appelle à le vivre dans l'Église. Vous voulez être un roi, une reine dans la vie éternelle ? Amen, dit Paul. Servons-nous les uns les autres. voulez être haut placé dans les cieux, pas de souci. Dieu cherche des personnes de plus en plus responsables, de plus en plus capables pour leur confier son autorité. Et pour cela, il n'y a qu'un chemin, servir les autres. L'abaissement. Il n'y a pas de promotion dans le royaume en écrasant la tête des autres. Il n'y a pas de promotion dans le royaume en jouant des coudes. Il n'y a pas de promotion dans le royaume en faisant des coups bas à l'adversaire, en lui mettant des bâtons dans les roues. Ça n'existe pas. Ça, c'est le monde. Peut-être le monde de l'entreprise, peut-être les études supérieures, des milieux comme ça, où en fait, on trie entre les meilleurs des meilleurs, en mettant une pression et une compétition élitiste entre eux. Non, dans le royaume, ça ne se passe pas comme ça. Vous voulez trouver le meilleur des meilleurs dans l'Église, cherchez celui qui se met vraiment le plus possible au service de tous, avec joie dans le cœur et liberté. Mais avons-nous cette mentalité en tête? Avons-nous ce changement de cœur? Est-ce que nous regardons comme glorieux, comme fort, comme impressionnant, comme admirable celui qui se met au service de tous? Ou est-ce que nous admirons celui qui arrive à écraser la tête de tous? Celui qui arrive à passer par-dessus tous? Qui est le grand pour nous? Qui est le fort pour nous? Qui suscite notre admiration? Qui devient un modèle pour nous? Celui qui arrive à s'effacer pour laisser ceux qui ont vraiment besoin, ceux qui sont faibles, ceux qui sont perdus, trouver leur chemin? Ou celui qui arrive à parvenir à la gloire et au sommet parce que il a été plus malin, plus fort, plus astucieux, plus adroit, plus prévoyant que les autres? Quel est notre modèle? Notre source d'inspiration. Paul nous dit, prenez le Christ. Prenez le Christ. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Apprenez à l'admirer pour que autour de vous, là, dans ce monde-là, corrompu, comme dit Paul, en perdition, nous arrêtions de regarder comme admirables ceux qui vont peut-être devenir des super youtubeurs avec des millions de followers, ou des gens qui arrivent à se faire un nom par vainquant les autres dans des super compétitions, par la violence, par la menace, par le pouvoir, par ces choses-là. N'admirons pas ces personnes-là parce que notre Dieu tire sa gloire de son abaissement. Pourquoi est-ce que notre Dieu est formidable, unique, admirable, fiable? Parce qu'il est allé là. Alors ne trouvons pas des gens fiables parce qu'ils sont capables de vaincre les autres. Ne trouvons pas des gens fiables parce qu'ils sont capables de tendre des pièges à leurs adversaires. Ne trouvons pas des gens fiables parce qu'ils sont capables de reprendre leurs paroles et de changer leurs engagements au bon moment. Trouvons quelqu'un de fiable parce qu'il reste fidèle jusqu'au bout. Trouvons quelqu'un de fiable parce que ceux pour qui il s'est engagé, il ne les abandonne jamais. Trouvons quelqu'un de fiable parce que pour la bonne cause, pour la justice, pour la vérité, pour l'amour, pour le pardon, il est prêt à endurer toutes les souffrances qui se dresseront sur sa route. Paul, à la fin du passage que j'ai lu, emploie ce mot étrange. Même si je sers de libation en plus du sacrifice, de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. C'est quoi une libation? Et même si mon sang doit couler. Mais le mot libation est important en fait. Mais effectivement, ça signifie sa mort. Imaginez que je gagne une superbe coupe et que voilà, j'arrive sur le podium et qu'à ce moment-là, en fait, on me tend une belle bouteille de champagne et que moi je veux rendre témoignage que ce n'est pas pour moi ou ma gloire, mais c'est pour le Seigneur que je veux rendre gloire, et bien je vais prendre ce champagne et je vais le gâcher. Je vais le déboucher et je vais le vider par terre. Je ne vais pas en boire une goutte. Et je veux montrer par là que les récompenses que je reçois à cause de ma performance, ben je ne veux pas en profiter pour être un témoignage que ce n'est pas pour ces récompenses que je l'ai fait, c'est pour Dieu. Et donc je verse en libation les choses que je mérite humainement pour montrer que ce n'est pas pour avoir ça que je l'ai fait. Ça va ? Et Paul a réussi à fonder des églises. Et cette église de Philippe, elle est particulièrement chère à son cœur. Et il sera honoré, glorifié d'arriver devant le Seigneur et de montrer les Philippiens en disant « Mes enfants !» C'est ce qu'il dit. Quand il dit « Ce sera mon sujet de gloire au jour du Christ de n'avoir pas couru et peiné en vain. Votre foi sera mon sujet de gloire. » Mais est-ce que Paul l'a fait pour la gloire? Est-ce que Paul l'a fait pour avoir une situation sur terre? Est-ce que Paul l'a fait pour être le plus grand des apôtres chrétiens et être reconnu? Comment pourrait-il prouver que non? Comment pourrait-il prouver que c'est exclusivement pour le Seigneur et pour le salut des Philippiens qu'il le fait? En étant lui-même offert comme une libation, gâchée. Et en trouvant ça, ok, pas de souci. Parce que vous savez ce qui compte? C'est pas que je sois récompensé, c'est pas que je sois reconnu dans cette vie-là, c'est pas que je devienne quelqu'un ici-bas maintenant. C'est que vous soyez au Seigneur et que lui soit glorifié. Alors oui, même si je sers de libation en plus du sacrifice, de l'offrande, de votre foi, je m'en réjouis. Il veut marcher dans les traces de son Seigneur qui s'abaisse en toutes choses. Et vous voyez que je sens qu'il prépare sa mort. À la fois, il dit qu'il veut revenir, il espère qu'ils vont se retrouver. À la fois, il prépare quelque chose. Et donc, ce n'est plus lui leur père spirituel maintenant. Faites tout sans murmure ni discussion comme des enfants de Dieu. Maintenant, votre père... C'est plus moi. Notre modèle, c'est plus moi. Notre modèle, c'est Christ. Et votre Père, maintenant, c'est Dieu. Donc, si je ne suis pas là, eh ben, vous allez trouver le chemin parce qu'il y a votre Père, Dieu, qui est là. Vous êtes ses enfants. Et il y a Christ qui est votre modèle. Et le vouloir et le faire, Dieu va le façonner dans chacun de vos cœurs. Pour faire quoi? Ayez un seul esprit. L'épreuve approche pour cette église, la persécution, ils ont besoin d'avoir un seul esprit, d'être unis, d'être soudés. On en parlait hier au conseil, on a travaillé à ça. Quand il y a eu le conflit avec Abdel et cette église a été blessée, le conseil qui s'est constitué après était un conseil qui a cherché l'unité. Des gens soudés, qui ne laisseraient pas la division arriver au milieu d'eux. Quand une église va connaître une épreuve et l'église de Philippe va être persécutée par les Romains, pour trouver un réconfort, pour trouver une force, pour pouvoir nous appuyer sur la communauté, il ne faut pas que l'église soit divisée. Paul les prépare. Ayez un amour, une âme, une seule pensée. Vous aurez besoin les uns des autres pour tenir. Si vous vous préparez à la persécution, si vous vous préparez à l'épreuve en vous disant « Je vais me faire mes réserves, je vais me faire mon petit bunker, mon abri anti-atomique pour que moi et les miens seulement nous y réchappions », vous ne supporterez pas. Ou peut-être vous traversez l'épreuve, mais au prix de votre foi, au prix de votre loyauté, au prix de votre dignité, au prix de votre honneur, au prix de votre amour pour le Seigneur et au prix de votre lien avec les autres. Mais Paul, lui, affronte toute souffrance pour le Seigneur. Il ne cherche pas la souffrance, il ne cherche pas le martyr, mais il est prêt à affronter toute souffrance pour le Seigneur. Donc ayons en nous les mêmes pensées qu'étaient celles en Jésus-Christ. Vous aussi, je vous exhorte, ne cherchez pas un modèle chez moi. N'attendez pas du conseil d'anciens qu'ils vous disent comment faire le bien entre nous. Vous qui avez l'esprit, Dieu opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. N'attendez pas des consignes de la part des chefs, des responsables, non. Vous êtes les enfants de Dieu. Apprenons cette souffrance, de frustration peut-être. Supportons-nous les uns les autres entre chrétiens. C'est pas facile forcément de supporter des chrétiens parce que on a des attentes envers des chrétiens. Et quand un chrétien calomnie, quand un chrétien n'est pas loyal, quand un chrétien n'est pas fidèle, quand un chrétien est égoïste, quand un chrétien ne renvoie pas l'ascenseur, ça nous blesse plus que quand c'est un non-chrétien qui le fait. Parce qu'on a des attentes entre nous, de vie communautaire, d'amour, de qualité, de franchise, de sincérité, de loyauté, d'honnêteté. On a peur d'être blessé entre nous. Alors, on a peut-être des relations fraternelles timides, où on n'étend pas notre amour fraternel à toute la communauté, mais à ceux dont on est proche, à ceux pour qui on a pu bâtir des relations de confiance. Parce qu'on a peur de souffrir. On a peur de souffrir. On a raison d'avoir peur de souffrir. Mais le Seigneur Paul nous appelle à ouvrir, à étendre ce cœur, cette envie d'être bienveillant, bon, à toute la communauté. Pas parce que c'est chouette, parce que c'est vrai. Parce que ça nous fait ressembler à Jésus et parce que ça nous fortifie dans l'épreuve. Puissiez-vous trouver cette semaine, cherchez dans votre cœur le vouloir et le faire que Dieu aura déposé. Cherchez dans votre cœur cette semaine le vouloir et le faire que Dieu aura déposé. Et puisez dans sa consolation, ses encouragements, sa communion, sa compassion, sa miséricorde pour vous, puisqu'il y en a quelques-unes, pour apporter aux frères et aux sœurs que Dieu vous placera sur votre cœur. Amen.